Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, umanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Jimi Hendrix!
This is a new member to the group. It's Billy Cox on bass. And Mitch Richard on drums. And here's Julie on public saxophone.
Stand next to your fire. Hey, let me stand, baby. Oh, let me stand. Let me stand, baby. Oh, let's live, baby. Stop acting so damn crazy. See, you're my main home, but ain't my concern. Don't play with me, child, and you won't get burned. Oh, I've only one itch and desire. Let me stand next to you.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un véritable document désormais disponible en CD et DVD chez Sony Legacy et qui nous permet de retrouver l'illustre Jimi Hendrix en concert à l'Atlanta Pop Festival le 4 juillet 1970. Pourquoi cette prestation est-elle historique? Dans quel contexte a eu lieu cet événement? Nous allons poser la question à nos deux invités du jour, Yazid Manou et Belkacem Mezian. Messieurs, soyez les bienvenus.
Bonjour Joe.
Bonjour Joe, bonjour Yazid.
Et bonjour aux auditeurs.
Yazid Manou, vous êtes l'un des grands spécialistes de Jimi Hendrix en France. Vous aviez organisé il y a 25 ans un festival Hendrix à l'Olympia à Paris qui est resté dans les mémoires. Et vous êtes aujourd'hui attaché de presse dans l'univers de la musique. Belkacem Mezian, vous êtes conférencier, saxophoniste, pédagogue et chroniqueur pour le magazine Soulbag. Avec vous, messieurs, nous allons essayer de comprendre l'importance de la venue de Jimi Hendrix en Géorgie et la valeur patrimoniale d'une telle archive sonore et vidéo. Tout d'abord, que venons-nous entendre Yazid Manou? Où sommes-nous ce 4 juillet 1970 et que se passe-t-il ce jour-là?
Beaucoup de questions. On vient d'entendre l'homme qui reste, en tout cas à mes yeux, et pas simplement à mes yeux, le plus grand guitariste qui ait jamais existé, sur une prestation que les fans attendent depuis très longtemps, puisqu'il s'agit donc du Festival d'Atlanta, le deuxième Festival d'Atlanta. Voilà, et Hendrix arrive sur scène, toujours tard dans la nuit. Et l'importance de ce concert, c'est qu'il était à ce moment-là, il jouait devant... plus de 300 000 personnes, il n'avait jamais joué devant autant de monde. Mais il fera encore plus à l'île de Wight, ça c'est une autre histoire.
En quoi ce document est plus intéressant que toutes les archives que l'on ressort périodiquement pour célébrer Jimi Hendrix?
Du point de vue du fan, c'est un concert qu'on attendait. Alors nous, évidemment, je parle pour les fans, c'est un peu différent parce que, contrairement au grand public, ce concert était déjà disponible, mais en VHS. Maintenant, donc, évidemment, le Blu-ray et le DVD, c'est une qualité supérieure. Il y a quand même des morceaux en plus, des plans de vidéos qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est bien de le voir dans cette qualité-là.
Belkacem Mezian, il serait bon de rappeler le contexte social et racial de l'époque. Pourquoi le fait de réunir 400 000 jeunes à Byron, petite bourgade de Géorgie, était périlleux, voire inconscient?
Alors, périlleux et inconscient à ce moment-là,
peut-être un tout petit peu moins que 3 ou 4 ans avant. Là, on est en 1970, donc on est quasiment à la fin de ce qu'on appelle l'ère moderne de la lutte pour les droits civiques, qui, en général, on accepte plus ou moins le démarrage en 54 et vraiment la fin en 70-71. Mais moi, j'aimerais juste repréciser qu'on est dans une ville symbolique et une ville très importante, c'est Atlanta. Atlanta, pour le symbole, c'est quand même la ville de naissance de Martin Luther King. C'est la ville où a été quasiment créée, ou en tout cas conceptualisée, cette notion de Black Power par un grand activiste qui s'appelle Willie Ricks. Et donc on est quand même dans un des endroits les plus symboliques et les plus moteurs, on va dire, de cette grande lutte. Et donc en 70, quelques années après les grandes émeutes, quelques années après les grandes décisions d'intégration scolaire, d'intégration dans toutes sortes de domaines, on est en plus un 4 juillet, Jimi Hendrix, je pense à ce moment-là, est aussi un symbole accepté, non accepté, enfin pour la communauté noire, c'est quand même un musicien entre guillemets à part, puisqu'il a défrayé la chronique en prenant des musiciens blancs. Donc tout ce contexte, pour moi, fait que cette date est très symbolique, pas seulement périlleuse, parce que comme je vous disais, on est quasiment au début d'une ère un petit peu plus avec un peu plus d'espoir, mais c'est le fait que vraiment ce soit Atlanta et que ce soit une ville qui ait porté haut et fort le message des droits civiques.
La Géorgie est quand même toujours un État très ségrégationniste en 1970.
Très ségrégationniste, avec l'Alabama, le Mississippi, peut-être la Caroline aussi, ce sont des États qui se touchent dans le Sud. Ce sont les États qui ont connu les ségrégations les plus importantes, mais qui ont aussi, je sais pas si c'est paradoxal ou totalement logique, mais qui ont été aussi des moteurs, comme je disais tout à l'heure, des moteurs réellement de cette grande lutte. Et beaucoup de choses sont parties d'Atlanta. Martin Luther King, c'est là-bas qu'il a créé la SCLC, donc on est vraiment dans un lieu symbolique, très très symbolique pour cette lutte.
Diriez-vous que le mouvement des droits civiques qui perdait de sa vigueur au tournant des années 70 a retrouvé des couleurs grâce à ce festival ?
Je pense que ce genre de festival ont permis, en tout cas, de réunir blancs, noirs, chose qui, 10 ans avant, était quasiment impossible. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu plus intégrationniste, peut-être que Woodstock, bien plus que Wattstax, qui se passera quelques années après, qui est quasiment à 100% dédié ou organisé par des noirs américains. Donc je pense que là, on est dans un entre-deux, avec une philosophie hippie, qui permet aussi d'avoir des rapprochements un petit peu plus clairs entre les communautés. Donc je pense que ce festival-là est un peu symbolique aussi de ce rapprochement, et peut-être un peu plus d'espoir pour les années à venir.
Quoi qu'il en soit, Lester Maddox, qui était le gouverneur de Géorgie à l'époque, était farouchement opposé à ce festival de hippies trop chevelus à ses yeux.
Des gens débarquent de tous les États-Unis avec une idée en tête, faire de cette petite ville le théâtre d'activités illégales, répugnantes et odieuses. Nous ferons tout notre possible avec le renfort de la police pour que la loi soit respectée afin de protéger la vie et les biens de nos concitoyens, sachant qu'il nous faudra faire appel à des renforts. J'aime les festivals, moi aussi j'aime m'amuser, mais ceux qui nous rendent visite devront se conformer aux lois en vigueur en Géorgie.
Ce que nous venons d'entendre, Yazid Manou, est extrait du DVD Jimi Hendrix Electric Church, qui remet en contexte la prestation historique de Jimi Hendrix dans le sud des États-Unis. Face à l'arrogance de Lester Maddox, gouverneur blanc raciste de Géorgie, que pouvait apporter Jimi Hendrix avec sa musique? Comment pouvait-il contrer les discours de haine des sudistes d'alors?
De toute façon, lui, sa seule arme, c'est sa guitare. Voilà. Donc face à tous les discours de haine ou autres, il n'était à l'aise que en jouant sur scène. Je pense qu'on parlera de son interprétation magnifique de l'hymne américain, mais sa seule réponse par rapport à tout ça, ce ne sont pas des mots, ce sont des notes.
Est-ce qu'il était un musicien engagé politiquement ?
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça de Jimmy. Il y a toujours eu beaucoup de débats par rapport à sa relation avec l'armée, avec les USA, pourquoi il a fait l'hymne américain. Il faut quand même savoir dans son parcours que le père de Jimmy était militaire, que Jimmy s'est engagé dans une troupe de parachutistes, qu'il a donc porté les couleurs, en tout cas à l'armée, pendant 13 mois, même s'il a fini par se faire éjecter, à notre grand bonheur évidemment. Donc il était évidemment très concerné par tout ce qui se passait au Vietnam. D'ailleurs, un de ses musiciens était parti au Vietnam, a été blessé au Vietnam, a une plaque métallique dans le crâne. Quelques semaines avant le concert de Woodstock, il y a des jeunes Américains qui se sont fait tuer. Donc évidemment, il était concerné par tout ce qui se passait. Mais sa seule arme à lui, c'était de prendre sa guitare. Et quand on voit l'interprétation qu'il en a donnée, on a réponse à tout.
Quand on écoute ces déclarations dans le documentaire Electric Church, on sent une part de militantisme, de conscience citoyenne, mais ça reste très nébuleux, presque naïf. Écoutons les propos de Jimi Hendrix à l'époque.
De nos jours, la musique a beaucoup d'influence sur les jeunes, les politiciens, je préfère ne rien en dire. Ils passent à la télévision et le pauvre type dans le fin fond du Mississippi n'y comprend pas grand-chose en dehors du symbole de la Grande Amérique. Avec la musique, tout est réel, que nous soyons dans l'erreur ou non. Si elle rassemble tant de gens, c'est bien qu'elle a un sens. Avant l'assassinat de Martin Luther King, il y a eu beaucoup de changements, mais lorsque le bouillonnement social est retombé, les gens en ont subi le contre-coup. Ils se disaient, tout ça c'est bien sympa, mais que va-t-on pouvoir faire maintenant? Beaucoup d'événements ont eu lieu et il faut les lier les uns aux autres pour atteindre le but final, amour, paix et harmonie. Nous voulons également faire prendre conscience aux décideurs que la musique devrait être jouée en extérieur comme dans les festivals. Beaucoup de gamins du ghetto n'ont pas assez d'argent pour traverser le pays et assister à ce type d'événement. On devrait tous pouvoir participer à ces manifestations musicales où tout le monde se côtoie. Vous n'en croiriez pas vos yeux.
Vous reconnaîtrez, messieurs, qu'il y a chez Jimi Hendrix une certaine candeur qui dénote face à la situation réelle sur le terrain et dans la société américaine de l'époque, non?
Pour moi, Jimi Hendrix, c'est la définition parfaite du mot « cool ». Il était cool. Il n'y avait qu'un seul domaine où il était maître pour parler, c'est la musique. Je ne dis pas que le reste, ça l'intéressait pas. Il fallait bien qu'il réponde, il était harcelé de partout. Il y a aussi une pression à ce moment-là qui est très très forte au niveau des Black Panthers, parce que 90% du public de Jimi Hendrix est blanc, parce que, comme l'a dit Belkacem au début, il est vrai qu'une partie de la communauté black a été choquée parce que Jimi avait pris deux musiciens blancs. Alors il s'est un petit peu rattrapé, si on peut dire ça, par la suite, parce que les fameux concerts du Men of Gypsy à la nuit de la Saint-Sylvestre, 31 décembre 69. Deux amis lui ont donné un coup de main, donc Billy Cox, le bassiste black, et surtout Buddy Miles, le batteur black. Malheureusement, ça n'a pas duré, puisque ses managers sentaient que Jimi était évidemment une poule aux œufs d'or, et que la seule formule qui était possible, c'était l'expérience, donc il fallait que Jimi joue avec des blancs. On ne sait pas, mais c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles Buddy Miles a été viré du groupe et Hendrix est reparti en tournée avec le Cry of Love Tour en avril 70 avec Billy Cox, le fidèle bassiste, et il a repris Mitch Mitchell, le batteur. Donc oui, il y avait une pression énorme. Il fallait que Jimi réponde, il fallait qu'il fasse plaisir aux journalistes, plaisir à ses fans, mais lui ne jouait pas ni pour les Blancs ni pour les Noirs.
Mais le discours reste quand même très psychédélique, Belkacem Mezian.
À la rigueur, j'amènerais dans ce petit débat une personne très importante aussi à cette époque-là qui s'appelle Sly Stone. Et en fait, ça me permet de faire une petite différence entre les artistes comme James Brown, Otis Redding, qui était d'un sud profond et qui était d'un sud rural même, avec des valeurs traditionnelle, religieuse, et qui était très proche de l'église, et Sly Stone ou Jimi Hendrix, qui étaient des gens qui venaient de l'ouest des États-Unis, une région qui a été peuplée de Noirs américains un petit peu plus tard, où la notion de ghetto est pas aussi forte qu'à Chicago, qu'à Détroit, etc., etc. Donc, je pense aussi que les messages qu'on entend chez Sly Stone, Sly and the Family Stone pour le groupe, des messages de paix, psychédéliques, ont énormément à voir avec ceux de Jimi Hendrix et énormément aussi à voir avec l'existence qu'ils ont eue de fréquenter des jeunes blancs, des jeunes descendants d'Italiens, de Latinos, etc., etc. Donc, Sly Stone et Jimi Hendrix font vraiment partie avec peut-être un monsieur qui s'appelait Arthur Lee, qui était le leader d'un groupe qui s'appelle Love. Voilà, on a des personnages comme ça qui n'ont pas grandi dans les mêmes conditions qu'un monsieur comme James Brown. Donc forcément, ça influence aussi un petit peu ce discours de paix, un discours un petit peu plus intégrationniste.
Et puis il faut rappeler, pour compléter, que quand on entend Sly et quand on entend Jimi, il y a toujours un parallèle, puisque tous les deux sont dans leur monde peuplés d'hallucinogènes, donc ils sont quand même un peu ailleurs tous les deux à chaque fois.
Nous allons en tout cas porter le message d'amour de Jimi Hendrix sur les ondes. Voici Message of Love en public le 4 juillet 1970 lors de l'Atlanta Pop Festival. Message of Love, Jimi Hendrix à Byron, le 4 juillet 1970, extrait du CD-DVD Blu-ray, Jimi Hendrix Electric Church. Pourquoi ce document ne réapparaît qu'aujourd'hui, Yazid Manou?
Alors, comme je le disais, en tant que fan, on présente souvent aujourd'hui le festival d'Atlanta, en tout cas ce concert de Jimi, comme étant inédit. Il n'est pas si inédit que ça, puisque les images étaient sorties, donc au départ, sur une VHS, comme on disait à l'époque. Maintenant, comme le dit quelqu'un dans le documentaire, il y avait une équipe de tournage qui était déjà sur place et qui se sont dit pourquoi ne pas filmer ce festival. Mais ce qu'on découvre, nous, en tout cas, de façon inédite, ce sont les images d'avant festival. C'est-à-dire que, comme un peu les commentaires que nous avons dans les documentaires sur Woodstock, où on voit ces espèces de longues files de voitures arriver, on voit les jeunes qui sont tout nus, qui sautent dans l'eau, qui s'amusent et tout ça. Donc ces images-là, on ne les connaissait pas. Par contre, les images de Hendrix, on les connaissait. Mais le fait de mixer ces images inédites d'avant festival avec celles d'Hendrix, oui, le documentaire en tout est inédit. Et moi, ce qui me surprend toujours, et c'est toujours la force de Jimi, c'est que, évidemment, on a l'impression, la façon dont c'est présenté, que c'est un concert de Jimi Hendrix. Oui, le DVD, oui, mais on parle du festival d'Atlanta. Il y avait B.B. King, il y avait Procol Harum, il y avait plein de groupes qui ont joué, mais c'est toujours génial parce que soit c'est la puissance de l'esthète de la famille Hendrix, mais on arrive toujours à extraire uniquement que Hendrix. Et là, c'était dirigé 100% sur Hendrix. On va pas s'en plaindre, mais il s'agit du Festival d'Atlanta, le deuxième Festival d'Atlanta. Il y en avait eu un autre l'année d'avant.
Bekassem Meziane, on dit que ce festival fut le dernier des grands rassemblements de la génération pop psychédélique. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'évolution des mentalités de l'époque? Est-ce que la fronde sociale avait disparu? Est-ce que la désillusion l'emportait sur le combat citoyen?
Non, pas tout à fait encore en 70, même si je disais tout à l'heure que ça commence à s'estomper un petit peu à partir du moment où beaucoup de choses ont été déjà installées en 70. Mais il reste quand même énormément de barrières à casser encore, à briser encore à ce moment-là en 70. Après là, on est dans le contexte de la musique. Faut savoir aussi que c'est quand même pile un moment où les grandes compagnies comme Columbia, par exemple, vont commencer à s'intéresser et même lancer carrément des enquêtes pour savoir un petit peu ce qui est vendable dans le milieu blanc et dans le milieu noir. Donc on est dans une période aussi charnière, une année ou deux charnières comme ça, qui nous permettent aussi de dire que Jimi Hendrix et Sly Stone, dont on parlait tout à l'heure, sont des ovnis avant 70. Après 70, on commence à voir des groupes aussi, des musiciens qui vont légitimer la musique d'Hendrix en la réutilisant, funkadélique bien sûr, alors Soul and Fire, qui vont avoir des côtés black rock, comme on appelle ça aussi. Donc c'est, disons, autour de 1970 que les choses vont se faire autant au niveau du business, parce qu'on est quand même dans un monde où l'argent règne aussi, hein, la musique, hein, faut pas le sous-estimer, mais ça prendra encore quelques années parce que on a encore des preuves aussi du fort poids du message Black Power ou du message séparationniste qui a régné pendant quelques années.
Deux mois après ce festival, Jimi Hendrix disparaît. Est-ce que c'est la fin d'une époque?
Je dirais qu'en tout cas, pour les Noirs américains, ça se marquera pas autant en 1970 que vraiment quelques années plus tard. Où là, on verra vraiment avec peut-être l'arrivée du disco quelques années après, où là, la musique noire est un petit peu mise à mal, malheureusement, par le business. Mais en 70, je sais pas, il faudrait plus demander à Yazid si l'impact de la mort de Jimi Hendrix a été aussi important dans la communauté noire que dans la communauté blanche.
Yazid Manou.
Moi, c'est pas au niveau de la communauté, mais c'est sûr que c'est la fin d'une époque. Les Beatles sont séparés. On ne parle même pas du festival d'Altamont des Rolling Stones qui s'est donc terminé tragiquement. Jim Morrison disparaît en 71. Janis Joplin disparaît 4 jours après qu'on ait enterré Jimi Hendrix. Oui, c'est véritablement la fin d'une époque, c'est sûr. En tout cas, la fin de ces très très grands festivals de cette taille-là.
Revenons à ce DVD enthousiasmant que vous nous présentez aujourd'hui. Messieurs, quels sont les grands moments à retenir durant cette prestation, Yazid Manou?
Bah, évidemment, en tant que fan, je suis très content d'entendre des morceaux comme Straight Ahead. Et on ne peut pas ne pas parler, évidemment, de cette symbolique du 4 juillet 70, où, là encore, l'enregistrement audio ne pouvait pas rendre compte des feux d'artifice qui explosent à un moment précis, au moment où Jimi interprète l'hymne américain.
Alors justement, parlons de ce Star Spangled Banner, l'hymne américain distordu par Jimi Hendrix durant le feu d'artifice du 4 juillet 1970, qui, rappelons, est la fête nationale américaine tout de même. Comment analysez-vous le contraste de ces deux images, Belkacem Meziane? Est-ce que c'est un pied de nez de Jimi Hendrix aux institutions, ou est-ce que c'est juste l'illumination du jeu prodigieux du héros des années 60?
Le pied de nez, je le vois. Après, j'ai toujours... on a une difficulté parce que nous, en France, on a un autre contexte, on a une autre culture politique et historique. Et quand on regarde au-delà de Jimi Hendrix, quand on va voir chez James Brown ou chez Curtis Mayfield, qui a un titre qui s'appelle This Is My Country, ou James Brown qui a un titre qui s'appelle America Is My Home, moi j'ai du mal à répondre clairement qu'il y a un séparationnisme et une idée. On n'est pas dans l'anarchie. On n'est pas chez les punks de la fin des années 70, c'est vraiment totalement différent. Je pense que jouer l'hymne américain, c'était aussi une preuve. On est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation quand même de l'appartenance à la nationalité américaine. Il y a ce combat qui peut pas être anéanti avec une notion anarchiste qui dit fuck le drapeau américain, fuck la fête nationale. Non, on n'est pas aussi loin que ça, à mon avis, chez Jimi Hendrix.
Yazid Man.
Moi, je ne vois aucun pied de nez dans l'interprétation d'hymne américain par Jimi Hendrix. Alors, la plupart des gens ont découvert cet hymne à Woodstock en 69, le 18 août, mais il faut savoir que Jimi le reprenait déjà un an avant, en 68, et que on recense une quarantaine de versions d'hymne américain. Donc Jimi, finalement, l'a toujours joué. Et quand il est interviewé au Dick Cavett Show le lendemain de Woodstock, à la télévision américaine, là, il déclare, parce qu'évidemment, paraît-il qu'il a reçu des lettres d'insultes, il y a forcément des gens que ça gêne, parce que on peut pas détériorer à ce point l'américain, eux, ils pensent qu'il le détériore. Lui, il dit, mais je le chantais à l'école, on me faisait chanter, il le trouve magnifique. Et je trouve que, et je suis pas le seul, en tout cas, l'interprétation qu'il a donnée à Woodstock, parce que c'est vraiment la date que les gens retiennent, c'est un des plus grands moments de guitare de l'histoire. Donc, c'est pas du tout un pied de nez, c'est sa façon de répondre à tout ce qui se passe. Alors, il est vrai que quand on décortique l'hymne, que ça soit celui d'Atlanta ou tous ceux qu'il a fait, à un moment donné, évidemment, sa version à lui, c'est que avec des pédales d'effet toutes simples, on entend le cri des enfants qui sont brûlés au napalm, on entend les avions qui s'écrasent, on entend les tirs de mitraillettes, on entend les obus. Voilà, Jimi restitue l'ambiance avec sa guitare. Donc il n'y a pas de pied de nez, au contraire.
Autre instant étonnant durant cet Atlanta Pop Festival, c'est l'introduction de All Along the Watchtower durant ce concert magique. Que se passe-t-il à ce moment précis, Yazid Manou?
Ah, là, c'est un petit peu pointu, hein. Vous voulez rentrer dans les détails, allons-y. C'est vrai que Jimi démarre ce morceau donc qu'il a adoré, qu'il a découvert donc en janvier 68, le grand morceau de Bob Dylan. Et comme l'explique après Billy Cox, c'est que Jimi démarre dans le mauvais ton. Et donc, il s'en rend compte tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde son sang-froid et il dit « As I was saying », comme je disais, et il reprend le morceau. Donc, il a juste mal démarré le morceau, mais il le reprend tranquillement. Voilà.
Eh bien, écoutons l'équilibriste Jimi Hendrix qui retombe sur ses pattes malgré un mauvais départ. From the Watchtower, Jimi Hendrix en public devant 400 000 spectateurs le 4 juillet 1970. C'est en tout cas une sacrée archive que Sony Legacy nous offre aujourd'hui et cela méritait bien les commentaires de deux spécialistes et passionnés de la culture noire. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Merci à vous.
Je rappelle que Jimi Hendrix Electric Church est disponible en CD, DVD et Blu-ray. Et notons enfin que le 27 novembre prochain, Jimi Hendrix aurait eu 73 ans. On a du mal à l'imaginer. La semaine prochaine, nous vous proposerons un reportage réalisé au festival Blues sur Seine qui se tient dans les Yvelines, en région parisienne, jusqu'au 21 novembre. Vous entendrez notamment les propos du vétéran Jimmy Johnson, 87 ans. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation très électrique de cette épopée Hendrix Peace and Love. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.